Philosophie première pour le père Philippe, à Saint-Joseph, le 30 avril 85.
Sur la quantité, les rapports entre la quantité et la substance, hein, pour bien saisir ce qu'est la quantité dans son exercice propre par rapport à l'être. La quantité va apporter à la substance une possibilité de se situer. Et quand on dit que la quantité est source d'individuation, ça veut dire que la quantité permet à la substance d'avoir des parties, d'avoir une extension, d'avoir une extériorité, ce que la substance n'a pas. Et donc, de situer la réalité substantielle, l'homme, dans un tout. On devient partie d'un tout, par la quantité. C'est la quantité qui permet de situer la substance, qui elle est un principe indivisible. Alors dans sa réalisation concrète, la substance implique justement ce pose, ce comment. Et dans le comment de la substance, dans sa réalisation concrète, la quantité apporte cette possibilité de juxtaposition, cette position d'extériorité, cette position de s'opposer. La quantité ne s'oppose pas, mais comme partie d'un tout, elle permet de s'opposer. Saint Thomas exprime cette chose très curieuse en disant que la quantité, d'une certaine manière, est mesure de la substance. C'est une expression difficile à comprendre. Mais il faut essayer de la comprendre. Quand Saint Thomas dit que la quantité est mesure de la substance, Aristote ne le dit pas. Donc ça doit venir d'Avicenne, ça. Entre Aristote et Saint Thomas, il y a Avicenne, il ne faut pas l'oublier. Je ne me souviens plus d'avoir vu dans Avicenne, mais je crois que ça vient d'Avicenne. La substance est mesure. La quantité est mesure de la substance. Alors, il faut bien comprendre. Ça veut dire que par la quantité, la substance est mesurable. Et donc, on peut dire qu'elle est mesure de la substance parce qu'elle permet de connaître la substance dans son rôle par rapport au tout. À ce point de vue-là, elle est mesure, vous voyez, mais c'est très particulier. Pas du tout comme si la quantité actuait la substance. Non, elle actue la substance sujet, la réalisation d'une substance matérielle, pour lui donner le divisible et lui permettre d'être mesuré. On comprend comment on peut passer de l'un à l'autre. Mais ce qui permet de mesurer, peut-être mesure de la substance. Alors quand on dit que la quantité est mesure de la substance, c'est une expression de saint Thomas, ça veut dire qu'elle permet à la substance individuelle, à la réalisation de la substance matérielle, d'être mesurable. Une autre question, c'est les propriétés de la quantité. La quantité, comme Aristote l'a démontré dans les prédicaments, n'a pas de contraire. Alors ça, c'est aussi très curieux. Elle fait l'unité, l'uniformité. Alors, dans le point de vue imaginaire, puisque nous avions vu le lien entre la quantité et le point de vue de l'imagination, on pourrait dire que, du point de vue imagination, on comprend comment la quantité va être principe de synthèse. Elle est au-delà des contraires. C'était au-delà des contraires, elle est principe d'une certaine manière de synthèse. Par son point de vue d'uniformité. Et c'est vrai que le propre de l'imaginaire, c'est de former une synthèse, d'assembler des oppositions, d'être au-delà des oppositions. La quantité est au-delà des oppositions. Elle permet les oppositions, elle est condition sine qua non pour que les rivalités existent et que les oppositions existent, mais elle est au-delà, parce qu'elle est justement en elle-même indifférente. La quantité en elle-même est indifférente, le divisible en soi-même est indifférent. Donc il y a une indifférence dans le sens de celui qui est neutre. C'est la neutralité de la quantité. La qualité n'est jamais neutre, tandis que la quantité a une neutralité. Elle n'a pas de contraire. La quantité n'est pas susceptible de plus et de moins. C'est aussi, ça fait partie de sa neutralité. Ça fait partie de cette uniformité que met la quantité. Un monde quantitatif est un monde dans lequel il n'y a pas d'intensité plus ou moins grande, il n'y a pas de plus et de moins. La quantité en elle-même n'a aucune perfection ni aucune beauté comme telle. Parce que ce qui est uniforme n'a pas de figure. Ce qui est uniforme n'a pas de qualité. Donc elle n'a aucune perfection ni aucune beauté. La propriété de la quantité, c'est l'égalité. C'est cette relation particulière d'égalité. On voit très bien. Si vous poursuivez l'égalité à travers tout, vous arriverez nécessairement à uniformiser. L'égalité est un type d'unité. C'est le type de l'unité dans la quantité. Et c'est pour ça que la recherche absolue de l'unité dans un monde quantitatif comme le nôtre aboutit à la recherche de l'égalité absolue. Et donc matérialise tout. La qualité ne cherche pas du tout l'égalité. Elle recherche la similitude. Ce n'est pas la même chose du tout. L'égalité, c'est vraiment ce qu'on peut mesurer et qui a un poids égal. On peut dire aussi que l'infini et le fini qualifient proprement la quantité. La quantité considérée en elle-même est une forme divisible qui, par le fait même, n'est jamais parfaitement actuée et déterminée. Vous pouvez toujours l'actuer, vous pouvez toujours la diviser. En un infiniment petit, on peut toujours remonter plus. C'est en ce sens-là que la quantité a une certaine infinité, dans les deux sens. Dans le sens de l'addition, vous pouvez toujours en ajouter au nombre, le nombre infini. Et vous pouvez toujours diviser le continu. Donc, une des propriétés, si vous voulez, du domaine de la quantité, c'est d'impliquer l'infini et le fini. Je ne dirai pas plus, seulement souligner, à la suite de ce que nous avons dit, ce sera pour terminer ce que nous avons essayé de comprendre par substance, qualité, quantité. À la suite de ces différentes déterminations, ici nous sommes face à un principe. Là, quelque chose de relatif. Relatif à la substance. Relatif à ce principe qui est nous y a. Nous pouvons comprendre et saisir le fondement de ce qu'on appelle le principe d'identité. Le principe, la substance est le principe d'être, le principe de ce qui est. Et je peux, à partir de là, comprendre comment l'ousia est principe d'identité. Aristote n'en parle pas. Est-ce que c'est un vrai principe ou pas un principe? C'est autre chose. Mais ce qu'on parle ordinairement du principe d'identité, c'est toujours sur la substance que ça se fonde. Nous pouvons considérer que la qualité est un principe de similitude et que la quantité est un principe d'égalité. Et de la relation, rien ne sort. C'est évident qu'il n'y a pas de principe de la relation. La relation comme telle, c'est toujours la dualité. Vous n'arrivez pas à l'unité. Il n'y a pas d'unité dans la relation, puisque c'est la dualité, c'est la dyade. La relation, c'est deux. Toujours être deux. Tandis que la qualité peut impliquer une espèce d'unité. Nous avons la similitude, principe d'unité. L'unité dans l'égalité, dans la quantité, c'est l'égalité. Et le principe, l'unité dans l'ousia, c'est le principe d'identité. Alors, c'est très intéressant de rechercher qu'est-ce que c'est que le principe d'identité. Qu'est-ce que c'est que le principe d'identité? Quand vous dites que le principe d'identité, A est A, est-ce que c'est un principe d'identité? C'est comme ça que le dit le père Garrigou-Lagrange. A égale A. C'est ça l'identité. Non. Ça c'est une tautologie. A égale A. C'est pas le principe d'identité. Le principe d'identité, c'est parce que la substance est capable de ramener à l'unité toute une diversité. C'est très curieux, parce que quand on ne saisit plus la substance d'une chose, on ne saisit plus son identité. La perte de son identité, ça fait partie aujourd'hui des slogans. Vous avez perdu votre identité. La carte d'identité, ça arrive, qu'on la perd. Alors on a perdu son identité. Perdre son identité, qu'est-ce que c'est que perdre son identité? Cherchez bien. Perdre son identité, c'est quand vous êtes pris par un aspect de fonction qui vous emporte au-delà de ce que vous êtes. Dans un tourbillon fonctionnel, multiple. Vous avez diverses fonctions et vous n'arrivez pas à les unifier. Vous avez perdu votre identité. Quand on dit que le prêtre a perdu son identité, c'est plus ce que c'est. Ça veut dire justement qu'on regarde uniquement à la diversité des fonctions, qu'on ne sait plus l'unité. L'identité, c'est toujours ce qui va permettre d'unifier une multiplicité. Mais vous voyez, ce n'est pas un vrai principe dans l'ordre de l'être. Le principe d'identité implique nécessairement le pose. Comment se réalise la substance? La substance individuelle arrive à tout unifier. Pierre unifie toute une série de qualités qui lui sont propres. Il fait que toutes ces qualités qui lui sont propres vont s'organiser en lui et faire une unité. Alors à ce moment-là, je peux dire qu'il y a une certaine façon, une unité fondamentale, principe d'unité, qui se fait dans la substance et à l'intérieur de la substance. Donc, toute attribution s'identifie au sujet. Pierre est intelligent. Toute attribution s'identifie au sujet. Principe d'identification qui fonde toute la logique de l'attribution. Toute la logique de l'attribution se fonde sur cette identification. Puisque Pierre est intelligent, Pierre est bon, Pierre est grammairien, Pierre est tout ce qui est possible. Vous identifiez en Pierre toutes ses qualités. Et toutes ses qualités s'organisent en lui. Vous voyez, ce n'est pas la substance au sens propre, c'est le sujet, c'est le tout-liti, C'est la substance première, au fond. C'est la substance première qui est source d'identification de tous les sujets. D'où principe d'unité, principe d'identité. Alors ça, c'est vrai. C'est pas A égale A, mais c'est A comme sujet qui ramène à lui toute la diversité. Alors à ce moment-là, il y a une unité qui se fait. Et on peut parler d'un certain principe d'unité, d'identité. Mais ce principe d'identité, vous ne le trouvez absolument pas dans la vieille philosophie aristotélicienne. Vous ne le trouvez pas non plus dans saint Thomas. Vous le trouvez ensuite, c'est très curieux, ce sont les philosophies idéalistes qui ont eu besoin de parler du principe d'identité. Et on comprend. Ils ont besoin de parler du principe d'identité. En réalité, ce n'est pas un principe. C'est un fait. Je constate qu'il y a dans ma vie une certaine unité. Je constate qu'il y a dans ma vie une perte d'unité. Alors, je comprends qu'à partir de là, on peut parler de perdre son identité. Et la perte de l'identité consiste tout simplement à ne plus avoir le sens de ce qui est capable en moi d'unifier toute ma diversité. Qu'est-ce qui est capable en moi d'unifier toute ma diversité ? Toute ma diversité qualitative, toute ma diversité de mes opérations. Ce qui est capable d'unifier en moi toutes mes opérations, c'est ma finalité. Ce qui est capable en moi d'unifier toutes les qualités, c'est ma substance, source de toute cette diversité. C'est mon âme spirituelle, qui identifie toutes ces qualités. Donc, au sens rigoureux, vous voyez, il n'y a pas de principe d'identité, mais il y a un principe d'unification, d'organisation, un principe de simplification, donc d'unité à ce point de vue-là. Je simplifie ma vie. Peut-on parler de principe de similitude ? Nous avons vu que l'unité dans la qualité, c'est la similitude. C'est l'unité dans la qualité. Donc, il y a quelque chose de premier dans l'unité. Alors, c'est essayer de comprendre comment diverses qualités peuvent être une. Là encore, s'unifier. Ce n'est pas un vrai principe. C'est une propriété. La similitude est une propriété. Donc, on ne peut pas parler au sens strict de similitude. Si on en parle, il faut tout de suite comprendre qu'en effet, c'est l'unité dans les qualités. Et c'est la même chose pour l'égalité. Pas de principe d'égalité. Mais c'est l'unité dans la quantité. Donc ça, il faut tout simplement comprendre qu'en réalité, la substance unifie, la qualité donne des similitudes, et la quantité permet l'égalité. Alors, de ce point de vue-là, on comprend le jeu particulier de ces diverses déterminations dans l'ordre de l'être. Tandis que la relation amène nécessairement la dyade. Toute relation amène la dualité. Il n'y a pas d'unité dans la relation, si ce n'est le fondement de la relation, qui est ou qualité ou quantité. Mais au fond, il n'y a pas d'unité au sens strict dans ce qu'on représente. Nous allons aborder maintenant tout à fait un autre aspect, le second grand aspect de la philosophie première, le point de vue de la recherche de l'être en acte et de l'être en puissance. Avant, il est nécessaire de déblayer le terrain. C'est-à-dire, il faut avant comprendre qu'il n'y a que deux axes de recherche métaphysique. À ce moment-là, la métaphysique est plus simple que toutes les autres sciences. Elle a une simplicité dans sa dignité. Parce que, vous le savez bien, toute recherche philosophique se fait par les grandes interrogations. Toute recherche philosophique se fait par les grandes interrogations. pour qui une recherche philosophique, il faut comprendre ce que représentent ces grandes interrogations et sur quoi portent ces interrogations. Ici, ces interrogations portent sur ce qui est regardé en tant qu'être, en tant qu'il est, si vous voulez. C'est-à-dire en tant qu'être. Première interrogation, qu'est-ce ? Qu'est-ce ce qui est en tant qu'être ? Voilà la première interrogation. C'est l'interrogation du petit esti. Qu'est-ce ? C'est l'interrogation la plus commune, si vous voulez. Celle qui vraiment est l'interrogation première. En interrogeant qu'est-ce ce qui est, nous découvrons nous y a. Essayez de découvrir cette drôle de bête. Nous y a, la substance. La substance comme principe, comme cause, selon la forme. Je me répète pour que ça rentre dans notre tête. Sur la forme de ce qui est. C'est donc l'analogue, on dit bien l'analogue, c'est donc l'analogue à la nature forme. Ceci au niveau de ce qui est nu. Quelque chose de parallèle entre l'ousia, la découverte de l'ousia, et la découverte de la nature-forme. Parallèle aussi dans la découverte de l'âme, au niveau du vivant. L'âme est au vivant ce que l'ousia est à ce qui. La nature-forme est à ce qui devient ce que l'ousia est à ce qui. Vous essayez de saisir ça, ça nous aide à mieux comprendre avec ces analogies que nous faisons après la découverte. Vous voyez. Nous sommes là dans la recherche de la cause formelle, comme diront les scolastiques. J'aime mieux pas dire cause formelle. Les scolastiques, c'est à moi dire carrément cause formelle. C'est pas gênant pour le théologien, ça me gêne beaucoup pour le philosophe. Vous comprenez la différence de dire cause selon la forme de ce qui est ou dire cause formelle de ce qui est. Toute la scolastique dira cause formelle. J'aime mieux reprendre l'expression d'Aristote, cause selon la forme de ce qui est. Pourquoi ? Parce que ça nous montre bien que la distinction que nous allons faire ici, les quatre interrogations, sont au niveau de ma connaissance de ce qui est mu. La première chose que je connais, c'est ce qui est mu. Et donc, les premiers plis de l'intelligence, c'est toujours très important de voir les premiers plis, comme les premiers pas d'un enfant. Les premiers plis de l'intelligence sont toujours à l'égard de quelque chose qui est mu. Qu'il s'agisse de la connaissance artistique, qu'il s'agisse de l'opération morale, qu'il s'agisse de la coopération politique, c'est toujours quelque chose qui est mu. À l'égard de ce qui est mu, il y a de fait quatre interrogations, et même d'une certaine manière, cinq interrogations. Alors, c'est intéressant de voir que ces cinq interrogations donnent les plis de l'intelligence. Quand je recherche ce qui est, je suis au-delà du devenir. Donc, je ne suis plus au niveau de ces plis premiers de l'intelligence. Mais ces plis premiers de l'intelligence conditionnent mon intelligence. Je suis capable de dépasser ce conditionnement. Quand je dis cause formelle, je n'indique pas le dépassement du conditionnement. Quand je dis cause selon la forme, j'indique le dépassement. Très important d'indiquer, essayer de saisir ça, c'est important au point de vue de ce que représente la structure profonde de l'intelligence humaine au niveau métaphysique. Au niveau métaphysique, l'intelligence humaine dépasse son conditionnement habituel. Nous sommes Aristote dit que la métaphysique est une science quasi divine. Parce que ce n'est plus le conditionnement habituel, ce qui explique la difficulté. On est des échasses, toi, dans le ciel. Elles sont assez hautes, c'est pas commode. Seconde interrogation, en quoi? En quoi ce qui est? En quoi ce qui est? En quoi correspond à la cause matérielle? À la cause? Là, je peux dire cause matérielle. Je ne dis pas cause selon la matière. C'est très curieux. Je dis cause matérielle. Là, je peux le dire. Pourquoi? Parce que la cause matérielle reste toujours la cause matérielle. Je ne peux pas la dépasser. Tandis que la cause formelle, je peux la dépasser. Je ne dis pas cause selon la matière. Non, non, cause matérielle. La cause matérielle, quand je regarde ce qui est mu, j'atteins la nature matière. Quand je regarde le vivant, j'atteins le corps. Quand il s'agit de ce qui est, y a-t-il une cause matérielle de l'être? Une cause propre, selon la matière, de l'être? En quoi est l'être? Vous posez la question. Cherchez de tenir l'être dans votre main. En quoi est l'être? Est-ce qu'il est fait de l'argile? Le corps humain est fait de la terre rouge. L'être. En quoi? Eh bien, c'est curieux au point de vue topique. Au point de vue topique, historique. Il y en a deux qui ont dit qu'il y a une cause matérielle de l'être. Averroès et Lénine. Ça, c'est dit textuellement dans Lénine quand il commente la métaphysique. Aristote a oublié la cause matérielle. Évidemment, saint Thomas aussi, parce qu'il a suivi Aristote. Tandis que Lénine comble une lacune. La cause matérielle de l'être, c'est la matière. Alors vous voyez qu'il y a confusion entre recherche du devenir et recherche de l'être. Chez Averroès et chez Lénine. C'est intéressant à voir ça. Tandis que nous allons dire qu'il n'y a pas de cause matérielle de l'être. Il ne peut pas y avoir de cause matérielle de l'être. Pourquoi? Parce que si j'interroge l'être en sachant qu'est-ce que c'est que ce qui est en tant qu'être, je découvre l'ousia. L'ousia est première. L'ousia est première. L'ousia comme telle n'est pas dépendante de la matière. Elle est un principe selon la forme de ce qui est. Donc elle ne dépend pas de la matière. Si elle est première, ça nous fait comprendre que l'être est premièrement déterminé et qu'il ne peut pas y avoir de premier au niveau de l'être dans la matière. La matière est toujours relative au niveau de l'être à quelque chose d'autre. Parce que si je saisis la nature matière, je la saisis comme co-principe. Comme co-principe de la nature forme. Et ce co-principe de la nature forme structure le devenir, mais ne structure pas l'être. Ça, c'est capital d'essayer de le comprendre. Il faut essayer de saisir ça. En quoi est l'être? Cette question n'a pas de sens. Je peux la poser à l'interrogation d'entre eux. Il n'y a pas de réponse, si vous voulez. En quoi est l'être? Vous avez beau chercher indéfiniment, en quoi est l'être? L'être, il est premièrement substance. Si l'être est premièrement selon la forme, comme une cause selon la forme, je vois que tout de suite, ce qui est fondamental dans l'être, ce qui est premier dans l'être, ce qui est propre à l'être, c'est d'être déterminé. L'être par lui-même est déterminé. L'être n'est pas indéterminé, la matière c'est la détermination. L'être est par lui-même déterminé. Tandis que le devenir n'est pas par lui-même déterminé. de devenir implique une indétermination radicale, autrement il n'y aurait pas de devenir. Le devenir implique nécessairement une indétermination radicale. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur du devenir, dans la structure du devenir, comme co-principe, il y a la nature matière. Tandis qu'au niveau de l'être, la matière n'intervient pas dans la structure de l'être, puisque l'être est fondamentalement et premièrement déterminé. Il ne peut pas donc être déterminé. Vous voyez que c'est très important comme question, parce que c'est là où je vois que la métaphysique me montre que je ne peux pas accepter une philosophie matérialiste. La grande opposition que je mets par rapport à Marx ou à Lénine dans cette position, c'est que la matière, elle apparaît dans le devenir. Elle est fondement du devenir, mais elle n'est plus au niveau de l'être. Alors vous allez me dire tout de suite, alors la matière n'existe pas. Ah, j'ai pas dit ça. La matière existe en devenir, jamais autrement. C'est pour ça que tout le monde physique est un monde en devenir. Et je ne peux pas saisir dans le monde du devenir vraiment quelque chose de stable, de fixe. Tout le monde physique est en devenir, mais radicalement en devenir, parce qu'il est matériel. Et que la matière implique une capacité infinie par rapport au mouvement. Et c'est important parce que ça fait saisir comment la métaphysique qui recherche ce qui est, en nous montrant que l'être n'implique pas de cause matérielle, ça fait comprendre comment l'être peut être séparé de la matière. Et que même l'être, dans la mesure où il est séparé de la matière. L'être, dans la mesure où il se donne toujours dans le devenir, implique la matière. Par le devenir. C'est par le devenir que la matière s'introduit dans l'être. Et donc elle s'introduit du mauvais côté. Pas par l'être, mais par le devenir. Sur cette fameuse distinction être et devenir. Vous voyez, c'est quand même très important pour saisir ce que représente exactement ce qui est et ce que représente au point de vue de la matière de l'être. Ça, il faut y réfléchir, hein, parce que ça ne se donne pas tout de suite. Des gens intelligents comme Averroès et Lénine, on dit que la matière est un principe propre de ce qui est. Et nous avons de la peine à saisir vraiment cette question, parce que tout de suite, mais la matière, elle existe. Elle est, oui, mais attention, elle existe dans un être en devenir. Le devenir aussi existe. Et la matière n'existe que par le devenir. Le devenir est un être second. Ce n'est pas un être premier, c'est un être second. D'être qui implique nécessairement quelque chose qui est antérieur à lui. Tout devenir est second, n'est jamais premier, ne peut pas être premier. Nous savons, nous avons de la peine à comprendre ça parce que notre monde physique, c'est un monde physique, un monde matériel, un monde en devenir. Nous sommes dans un monde en devenir. Alors qu'est-ce qu'il y a de point fixe dans ce monde? C'est quelque chose qui est au-delà de ce monde physique. Déjà chez le vivant. Puis il y a l'être, la personne humaine. Donc réfléchissez sur ce point de vue-là. Troisième question, d'où vient la réunion, l'origine? C'est la question d'origine. La question d'origine, d'où ça vient? La découverte de la coefficiente Eh bien, ici encore, nous devons dire pas de cause propre efficiente. Ça, c'est encore plus difficile à comprendre. Et c'est pourtant très important, parce que c'est à l'origine aussi de quantité de confusion. Mais ça, c'est une très grande purification de montrer que en philosophie première, donc en philosophie première, pas d'interrogation sur en quoi se trouve l'être, pas d'interrogation d'où vient l'être. Cette fameuse parole de Parménide, qui est si forte, cette parole de Parménide, qui dit ce qui est en tant qu'il est, n'a pas d'origine. Ce qui est en tant qu'il est n'a pas d'origine. C'est saisir l'être dans toute sa rigueur d'être. L'origine est toujours à l'égard de ce qui devient. Toujours. Toujours à l'égard de ce qui devient. Vous voyez, un animal, d'où vient-il ? Un homme, d'où vient-il ? C'est son origine. C'est à cause du devenir. S'il n'y avait pas de devenir, attends, il n'y a pas d'origine. Vous allez me dire, mais alors c'est affolant. Alors, l'être créé. Ah oui, ça c'est quelque chose d'assez particulier. Mais vous ne découvrez pas tout de suite l'être créé. Vous devez d'abord comprendre ce qu'est l'être avant de découvrir l'être créé. Et vous verrez que l'être créé n'est pas contradictoire à l'être. Parce que ce n'est plus un mouvement. Ce n'est plus un devenir. La création n'est pas un devenir. Ça, purification. Et c'est très important, c'est très très important. La création n'est pas un devenir. C'est là toute la différence entre l'évolution et la création. La création est au niveau de l'être, l'évolution est au niveau de la vie biologique. Et la vie biologique implique un devenir. La vie biologique est quelque chose d'au-delà du devenir, mais elle implique un devenir. Et le devenir n'est pas présent dans l'être. Mais ça, c'est, ça fait comprendre ce que c'est que la métaphysique. Hein. On veut saisir l'être comme être. Autant qu'on le peut. Alors, on voit qu'on ne peut pas saisir l'origine propre. Je chercherai le problème de la création après. C'est vrai, le problème de la création, je le chercherai après pour essayer de saisir la relation qui existe entre l'être premier que j'ai découvert, qu'on appelle Dieu, et moi-même. Alors je dirais que cette relation qui existe entre l'être premier et moi-même, c'est le problème de la création. Mais le problème de la création n'est pas la découverte de la cause propre de l'efficience, la cause propre efficiente de l'être. C'est la cause ultime, dernière. Dieu n'est pas cause propre, efficient de ce qui est. Puisqu'il n'y en a pas. C'est pas comme. Attends, je sais bien que c'est pas comme. C'est très déroutant. C'est très déroutant. Toutes les apologétiques se font autour de la cause efficiente. Au début du siècle, on faisait des apologétiques extraordinaires à propos de l'origine du monde. Il faut bien. Très bien, très bien. On monte, on monte, on monte. Très bien, il faut nécessairement découvrir le cause efficient de la vie. Et peut remonter indéfiniment la cause efficient. Indéfiniment. Vous ne pouvez jamais savoir quel est le point de départ d'une cause efficient. Vous êtes en devenir. Il n'y a pas de cause propre, efficiente de l'être. Enfin, purification extraordinaire. Difficile à comprendre. Hein. Il faut le saisir. Je peux vous montrer que négativement, ça va plus. Hein. C'est que c'est toujours à l'égard de ce qui devient que vous cherchez l'origine. Toujours. Regardez bien, dans toutes les recherches que vous faites sur le devenir, c'est toujours à propos de ce qui devient, ce qui apparaît, ce qui naît, d'où ça vient. Ça, c'est tout à fait normal, cette interrogation d'où ça vient, pour toutes les réalités physiques que je constate. Et quand il s'agit de l'être, la première fois que l'être apparaît dans la philosophie, je sais très bien que c'est dans une perspective de révélation faite par la déesse, par Ménide. Tout de suite, première chose qu'on dit, il est, il n'est pas en vrai. Il est en dehors de la Genesis, en dehors de la génération. Il est en dehors du devenir. Et il est, n'a pas de cause propre de devenir. Ça, c'est très cru. C'est assez bouleversant, quand on y pense vraiment. Alors, ensuite, quatrième interrogation, en vue de quoi ? Vous donnez vos objections si vous en avez. Si vous êtes en furax intérieurement, qu'il n'y a pas de cause efficiente de l'être et de cause matérielle de l'être, si en vous il y a un vieux matérialiste qui demeure, un disciple de Lénine qui demeure, ou un disciple d'Averroès, ça peut arriver, ça, c'est, on respire cet air-là. Alors on se dit, non, non, il y a une cause matérielle de l'être. Ou une cause efficiente, un vieil apologète que t'en veux. Alors vous me dites, mais oui, une cause efficiente, c'est la seule manière de remonter jusqu'à Dieu, c'est la cause efficiente de l'être, il faut bien. Alors je remonte Dieu en tant que. Pas de cause propre de ce cause efficiente du côté de l'être. C'est pour ça que toutes les objections que vous avez, sortez-les hein, pour qu'un jour soit sorti, et pour que vous montriez que ces objections sont imaginaires. C'est de l'imaginaire. Il faut purifier ça. En vue de quoi ? En vue de quoi ? C'est la cause finale. C'est là. Là, il y a une recherche. C'est pour ça qu'Aristote dit, en passant, et saint Thomas remarque ça, quand il s'agit de l'être, quand il s'agit de ce qui est vu du point de vue de l'être, il n'y a que deux interrogations. Qu'est-ce ? En vue de quoi ? Il n'y a pas d'autres interrogations. La simplicité de la philosophie première, comparativement à toutes les autres sciences. L'histoire n'est pas métaphysique. Ça, c'est sûr. La métaphysique est au-delà de la philosophie de l'histoire. Si vous racontez l'histoire de l'être, ça, c'est quelque chose. L'histoire, évidemment. Et on voit très bien avec Hegel, c'est à cause de la confusion de l'être et du devenir que Hegel veut une philosophie de l'histoire. Si Hegel avait compris de façon plus nette la distinction de l'être et du devenir, il aurait compris qu'au niveau de l'être, il n'y a pas d'histoire. Impossible. Parce qu'il n'y a pas de devenir. Tandis qu'en vue de quoi la fin, ah, je vais découvrir alors l'être en acte. Ce que nous allons essayer de saisir, c'est la fin de ce qui est. Alors, la cinquième interrogation, c'est sur le modèle de quoi ? Cause exemplaire. Cause exemplaire de l'être. Je ne crois pas. La cause exemplaire, vous voyez, c'est nous portons la cause exemplaire dans l'ordre des réalités artistiques de la cause exemplaire. Il y a l'idée. Alors, est-ce qu'il y a l'idée de l'être comme cause exemplaire de l'être ? Mais l'idée de l'être, justement, ou c'est une idée qui veut fabriquer l'être, ou c'est un concept d'être alors qu'il vient d'être. Donc il n'y a pas de cause exemplaire, il n'y a pas de modèle sur lequel de quoi est fait l'être. Mais ça c'est beaucoup moins, je dirais, habituel que la cause matérielle, la cause efficiente. Donc il reste vraiment deux seules causalités à rechercher, deux seules interrogations, en vue de quoi et qu'est-ce que c'est que l'être. Alors, une fois qu'on a déblayé le terrain, oui bien, on a recherché la substance, maintenant essayons de découvrir ce que c'est que la fin de ce. La fin de ce qui est. Qu'est-ce qui donne à l'être sa finalité ? Qui permet à l'être d'être parfaitement lui-même. C'est ça la finalité. Ça permet à une réalité d'être parfaitement soi-même. Quand je suis finalisé, quand j'atteins ma fin, je me repose parce que je suis parfaitement moi-même. Tant que je suis sur la terre, je n'ai pas le droit de me reposer. Je me repose biologiquement, je n'ai pas le droit de me reposer. Je dois nécessairement tout le temps, tout reprendre. Puisque je dois atteindre ma fin. Me donne ses limites. C'est pour ça qu'on peut arriver, vous voyez, très très facilement à avoir une espèce d'opposition vis-à-vis de la quantité. Il ne faut pas l'avoir. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire puisque je suis un être qui fait partie d'un tout. Et c'est par la quantité que je suis dans ce tout. Alors,